Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui va terminer cette semaine consacrée à l'après 89 et plus particulièrement à l'étrange victoire du droit en compagnie de Stephen Holmes qui est professeur de sciences politiques à NYU aux États-Unis. On a insisté tout au long de cette semaine sur le paradoxe central de l'après 89. Particulièrement visible pour le droit, le justicialisme se convertit en populisme, l'abolition des frontières voit réapparaître des murs, les droits de l'homme se font les compagnons de route du néolibéralisme et de la création de nouvelles inégalités, les règles claires dépérissent au bénéfice de normes insidieuses qui ne disent pas leur nom. Et voici que deux auteurs, l'un américain et l'autre bulgare, ont avancé une explication à ce retournement, à cette inversion de l'après 89, en développant une théorie très originale de l'imitation. Cette idée est développée dans un livre qui va être traduit sous peu en français, publié chez Fayard, et qui s'intitulera « Le moment illibéral, Trump, Poutine, Xi Jinping, pourquoi l'Occident a perdu la paix ?» Bonsoir Stephen Holmes.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, vous avez écrit avec Ivan Krastev ce livre qui traite des pays d'Europe de l'Est, mais aussi de la Russie. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous les mettez en lien avec ce qui se passe aux États-Unis et vous montrez dans une explication générale comment le libéralisme triomphant de l'après 89 a débouché sur l'illibéralisme. Est-ce que vous pourriez développer votre théorie de l'imitation qui s'est produite après 89?
Je vais essayer de le faire. Alors, comme vous savez, le populisme a pris le pouvoir ailleurs dans le monde, au Brésil, en Inde et aux États-Unis, comme vous dites. Mais en Europe, malgré Salvini et Boris Johnson, le populisme antilibéral, autoritaire, nativiste, n'a consolidé le pouvoir qu'en Hongrie et en Pologne. Donc, nous, dans le livre avec Ivan Krastev, commençons par essayer d'expliquer pourquoi cela est arrivé. L'explication plus commune, je pense, est probablement un retour du refoulé, c'est-à-dire le retour aux traditions pré-communistes, notamment l'illibéralisme des années 30, expliqué comme une sorte de destin historique. Mais nous avons choisi de mettre l'accent sur un facteur différent, à savoir la manière dont la tentative même de créer des démocraties capitalistes en Europe orientale a conduit à une vague de ressentiment antilibéral. Et vous pouvez vous demander peut-être pourquoi la démocratisation et la libéralisation pourraient conduire au ressentiment.
Oui, tout à fait, parce que généralement ici en Europe, on a le sentiment, on a tendance à blâmer Orban, à blâmer la politique polonaise, comme si c'était le retour de quelque chose que nous détestons, et on ne se remet pas du tout en cause, nous, sur notre participation peut-être à ce phénomène.
Oui, on a pris parti. Je pense qu'il y a une réponse importante que nous avons suivie parmi les autres, et que la population hongroise et polonaise ont vécu la démocratisation en tant qu'exigence d'imiter les valeurs et les traditions étrangères, comme une nécessité d'abandonner alors leur propre tradition comme n'ayant aucune valeur. C'est-à-dire beaucoup d'entre eux, des citoyens dans Hongrie et Pologne, ont vécu la démocratisation comme une espèce de auto-dévalorisation, auto-trahison.
C'est ça.
Comme René Girard a expliqué volumineusement dans ses études littéraires, l'imitation implique normalement une relation d'infériorité et de supériorité entre les imitateurs et les imités, entre le modèle et le mimique. Oui. Et alors, l'imitation est presque inévitablement associé au ressentiment. On pense à démocratisation comme imitation. On voit pourquoi c'est presque inévitable que ça conduit, ça amène à une espèce de vague de ressentiment.
Mais c'est-à-dire que on a pas bien interprété ici à l'Ouest, on n'a pas bien interprété ce qui s'est passé en 89. C'est-à-dire que, à vous lire, on a l'impression qu'il suffisait d'abattre le système totalitaire, le système communiste, pour que spontanément il soit attiré par le modèle de l'Ouest, le modèle qu'on avait en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Allemagne très très important, et que donc c'était une violence qui était faite à leur consentement. Eux-mêmes sont rentrés dans cette démarche, et vous employez un mot, Stephen Holmes, qui est très fort. Vous dites c'était une démarche de conversion,
on essaie de faire ça. Et spécialement dans le contexte de le processus d'harmonisation avec les normes post-nationales de l'Union européenne, qui sont vécues comme les normes allemandes, il faut dire, parce que les Allemands, après la Deuxième Guerre mondiale, ont vraiment essayé de jeter toute espèce de nationalisme, les symboles nationaux, non? Mais l'harmonisation alors a conduit l'idée, la tentation ou l'invitation d'harmoniser avec les normes post-nationales de l'Union européenne a conduit les libéraux polonais et hongrois à abandonner les symboles d'identité nationale aux politiciens locaux de l'extrême droite, c'est-à-dire à une contre-élite d'origine principalement provinciale qui ont réussi à créer un soutien politique dans un électorat en dehors des grandes zones urbaines et en cette manière de saisir la reine du pouvoir. C'est dans ce sens que le populisme est-européen est une révolte contre l'impératif d'après-guerre froide d'imiter l'Occident.
Et puis cette idée qu'ils n'ont pas le choix. Vous n'avez pas le choix, il faut passer, alors vous avez cette phrase, il dit il faut passer d'une orthodoxie qui était l'orthodoxie soviétique où il n'y avait pas le choix, il fallait adopter et suivre ses dogmes, à une nouvelle orthodoxie qui est celle de l'Europe et du néolibéralisme. Vous n'avez pas le choix, il faut faire comme nous.
Mais ça c'est vrai, on voit dans les populistes polonais, souvent on parle de la manque d'alternatives. Et aussi en Allemagne, la partie Alternative für Deutschland. Mm-hmm. Alternative, c'est un manque d'alternative. On a besoin d'alternative. Et le libéralisme a un peu embrassé l'orthodoxie. Est devenu une orthodoxie comme on pense que c'est la voie unique pour le développement.
C'est ça, il y avait avec une idéalisation des pays occidentaux. Comme s'ils savaient absolument ce qu'ils faisaient, qu'ils étaient très sûrs d'eux, que c'était la voie qui allait apporter la prospérité, la liberté individuelle.
Et aussi, il y a une autre chose qui est, pendant le processus d'harmonisation, les lois, on a dit à Polonais et Hongrois qu'il faut faire semblant d'être les démocraties, mais tandis que les lois ont été écrites en Bruxelles. C'est-à-dire, il y avait un paradoxe qui est assez humiliant, de dire qu'il faut faire semblant, et puis après, on a presque donné l'impression qu'ils ne sont pas vraiment capables de démocratie, mais il faut faire semblant d'être ça. Il faut comprendre, pas dans les Est-Européens qu'on connaît comme libéraux, parce qu'on sommes comme nous, sont absolument comme nous, mais dans la population qui est maintenant dans le soutien à Kaczynski et Orban, c'est ça, exactement ce sens d'humiliation, ressentiment contre l'impératif d'imitation.
Alors surtout qu'il s'est passé un phénomène, et ça, on ne l'a pas du tout compris en Occident, c'est que il y avait des dissidents qui quittaient le pays, du communisme, des dissidents quittaient le pays, Stephen Holmes, pour rejoindre l'Occident. Mais là, après la chute du mur, il y a eu une véritable hémorragie de population qui sont partis vers l'Ouest ou ailleurs d'ailleurs.
Oui. Ça, c'est très important pour comprendre, par exemple, l'hystérie anti-immigration en Europe orientale, où il n'y a pas du tout des immigrés, et pas de réfugiés immigrants. Et c'est surtout une réponse à la, comment on dit ça, la dépopulation, le mot en français m'échappe.
Oui, si,
mais
si.
C'est vraiment, la population a diminué beaucoup en tous les pays là, et c'est un sens qu'on va disparaître.
Alors, oui, c'est ça. C'est une angoisse de disparition, et les chiffres, je rappelle les chiffres que vous citez dans votre livre, Stephen Holmes, vous dites 27% de la population de la Lettonie a quitté le pays.
Incroyable.
22% de la Bulgarie, 21% de la Lituanie. C'est énorme.
C'est énorme. C'est vraiment un trauma national. Et alors, on va, c'est simplement une façon de déplacer le problème et dire que c'est la faute des immigrés.
Oui.
Mais ce n'est pas ça.
Oui.
Je pense aussi que c'est intéressant qu'en Pologne, où il n'y a pas d'immigrés, on est en contact continuel avec les Polonais en Angleterre, par exemple. Et les Polonais en Angleterre vivent dans le même quartier avec les musulmans, les immigrés africains. Et alors, on a absorbé l'idée que les immigrations est en train de détruire toutes les idéaux de liberté.
C'est
alors c'est une espèce de fantaisie, parce que c'est difficile à comprendre pourquoi et comment est possible de créer un mouvement politique contre l'immigration dans les pays où il n'y a pas d'immigration.
Ben oui.
Et ça, c'est une question qu'on doit y penser.
Ben, c'est très éclairant. C'est très éclairant parce que vous dites aussi, ceux qui restent, ce sont des losers. On pourrait dire, en France, c'est des ringards. C'est des gens qui n'ont pas été capables de partir.
Oui, ça, c'est un grand problème. Que les jeunes vont... Et aussi, on écoute souvent les discours d'Orban, par exemple. Il parle toujours de le fait que les jeunes vont ailleurs.
Oui.
Et on a le sens que le futur du pays c'est en train de disparaître. Alors ça, c'est l'émotion qui va nourrir cette espèce de nationalisme presque fanatique, et le sens qu'on est... On est en train de disparaître.
Alors, il y a, vous rapportez d'ailleurs dans votre livre, c'est très frappant, une sorte d'imploration d'Orban à la jeunesse de son pays, disant « ne partez pas, restez, restez dans la patrie ».
Et c'est la clé.
C'est la clé des choses qu'on ne voit pas d'ailleurs ici. Et puis, il y a autre chose que l'on voit ici, mais qui est très très important à vous lire dans les pays de l'Europe de l'Est, Stephen Holmes, c'est la crise générationnelle. Il y a une coupure entre les parents et les enfants, quoi, pour faire court.
Oui, ça c'est très important parce que En effet, les jeunes ont été occidentalisés et ils ont les idéaux plus occidentalisés, mais les parents, maintenant, ont le sens qu'on perd totalement l'influence sur les enfants. Et cette espèce, c'est aussi une crise. Et la crise politique vient du fait que les parents n'ont pas un sens qu'on va se reproduire dans la jeunesse.
Oui. Ben oui, donc ça veut dire que non seulement on a été coupé de la continuité historique de notre histoire, et on fait comme l'Allemagne, on oublie tout et on se lance dans le business. Deuxièmement, beaucoup de nos élites partent et puis on n'a plus de contact avec les enfants. Donc on comprend bien que les ressorts du populisme, c'est une sorte de devenir pervers d'une révolution qui n'est pas une révolution. La seule révolution, c'est de vous mettre comme tout le monde, retrouver la normalité.
Normalité. C'est on dit contre-révolution en Pologne et en Hongrie. Oui, cette idée de la normalité, c'est aussi très important. Un peu difficile à expliquer, mais je vais essayer de le faire. Il y a, dans la démocratisation de l'Europe orientale, une espèce de schizophrénie, parce que, naturellement, on doit, pour être un succès, pour réussir dans la société, s'adapter aux normes locales. Par exemple, en Bulgarie, en Roumanie, il y a le pot de vin, le business sans pot de vin, il n'existe pas vraiment.
C'est ça.
Mais les normes internationales sont qu'il ne faut pas donner le pot de vin. Alors, on est vraiment schizophrénique, on donne le pot de vin et on fait l'espèce de mouvement contre le pot de vin.
C'est ça.
Et alors, on est, je ne sais pas comment on dit ça, Antoine, mais straddle. On se trouve dans deux mondes.
On est
on on n'est pas accepté ni dans l'un ni dans l'autre.
C'est ça. On est rejeté des deux, on est déchiré. Et alors, vous citez, je pense que beaucoup de nos auditeurs ont vu ce film, vous citez le film de Baccalauréat, Graduation,
oui,
je
crois. Oui, c'est très et bien. Ouais.
C'est un film extraordinaire parce qu'il explique mieux que le ferait n'importe quelle thèse exactement cet écartèlement, ce déchirement entre deux systèmes de normes et dans le fond, quand ce qu'on a de plus précieux, parce que finalement, les deux protagonistes qui s'entendent pas, le couple des parents, ils ont, c'est un peu des losers, ils ont choisi de rester et puis ça n'a pas très bien marché.
Ouais, non, ça c'est vraiment émouvant. Oui. Et vraiment, on voit les racines émotionnelles très profondes de la crise après la guerre froide. Là, dans ce film, parce qu'on doit réussir, mais comment pour le faire dans cette telle société, il faut pas vraiment, on peut pas vraiment suivre les normes occidentaux.
Mais oui, parce que et c'est pour ça que votre livre est subtil, parce que c'est un livre de science politique, mais qui montre qu'on fait de la bonne science politique quand on passe par les sentiments moraux qu'éprouvent les gens.
Absolument. La science politique a perdu absolument la compréhension du rôle des passions, des émotions dans la politique. Et ça, c'est vraiment le sentiment même. Naturellement, c'est une question d'émotions, passions. Et on ne peut pas la comprendre sans ça.
Alors, Stephen Holmes, finalement, le drame de l'imitation, c'est qu'on est mis, ces peuples, mais par certains côtés, ça parle aussi un peu à la France, à mon avis, mais ça, c'est une autre question. Ben oui, parce que la France, il y a quelque chose de culturel dans l'après-89, c'est-à-dire que la France connaît aussi une certaine fuite de ses élites qui vont travailler à Londres ou à New York ou dans la Silicon Valley. Et la culture française, qui est une culture qui est très forte, qui se pense comme unique, bien sûr, et un peu une voie qui est différente de celle de la voie protestante qu'ont suivi la modernité anglo-saxonne, elle se sent un petit peu obligée parfois de ressembler à la culture américaine. Et ça, on voit bien que on comprend, il n'y a pas du tout la même intensité que dans les pays de l'Est, mais on comprend que c'est quand même un problème pour la culture française.
Oui, certainement.
Alors, dans votre théorie de l'imitation, Stephen Holmes, si je résume ce que vous dites, il y a le sentiment très, très rapidement qui s'est installé que c'était un objectif inatteignable, qui n'y arriverait jamais.
Ça, c'est aussi très important. On attend que les populations d'Europe de l'Est qu'ils vont imiter l'Occident, mais ils ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire, souvent, on a l'idée que les visiteurs à l'Europe orientale sont comme les touristes au parc zoologique. Et on va voir les animaux là qui n'ont pas les pouces opposables. On dit, ils sont comme nous, mais ils n'ont pas les pouces opposables. Ou, ils sont comme nous, mais ils n'ont pas l'état de doigt, ils n'ont pas les doigts humains, ils n'ont pas vraiment l'accountability. Comme ça. Alors, il y a une espèce de sens que, vous devez nous imiter, mais vous n'êtes pas capable de faire ça. Oui. Alors ça, c'est un double message qui est aussi très humiliant et ça donne la base pour la politique antilibérale d'Orban et Kaczynski.
Oui, mais ils prennent leur revanche et ça aussi, vous insistez, Stephen Holmes. Ils prennent leur revanche parce qu'ils disent, dans le fond, la défense de l'Occident, de la chrétienté, des valeurs européennes, c'est nous aujourd'hui qui l'avons et c'est vous qui les avez perdues.
Oui, c'est une inversion, c'est très important. Maintenant, on lit ça. Nous sommes l'Occident, nous sommes les vrais Européens. Vous, cette espèce de, comment on dit ça, l'Afrique en grandir musulmanisée, et Houellebecq a vraiment décrit très bien l'Europe, et comme ça, l'Europe occidentale. Et nous sommes le vrai, nous sommes le porteur des vraies valeurs chrétiennes de l'Europe authentique. Mais c'est une espèce de. On peut dire qu'il y a une espèce de jeu, mais je pense que c'est une expression de quelque chose de très profond.
C'est une espèce de jeu, n'empêche que si je vois ce qui se passe en France, ou en Italie avec Salvini, en France avec Marine Le Pen, et puis avec des penseurs américains qui emboîtent le pas à ce raisonnement, qui dit « mais oui, vous avez raison, il faut qu'on lutte contre le multiculturalisme, contre l'individualisme, etc. »
C'est incroyable, l'histoire américaine c'est incroyable, parce que comme vous savez, il y avait déjà une fois un grand remplacement, c'est-à-dire le grand remplacement des Indiens américains, des indigènes américains par les Européens. C'était la vraie, originale, grand remplacement. Tandis que maintenant, les nationalistes blancs américain parle de, oh, on va être remplacé pour les noirs, pour le, on est comme une pièce de sucre blanc qui va se dissoudre dans un café noir ou marron, et comme ça. Non, ça, c'est, je voudrais dire ça parce que pour nous, pour Ivan et moi, c'est aussi très important le paradoxe qu'en Europe orientale, c'est l'idée que les imitateurs sont toujours inférieurs aux imités. C'est les mimiques sont inférieurs. Et tandis qu'en Amérique, c'est le contraire. Et Trump a vraiment valorisé l'idée que l'Américain, l'Amérique est la plus grande victime de l'américanisation du monde. C'est-à-dire que les imités sont les victimes. Les imités sont les losers,
ah oui.
Pas les imitateurs. Mmh. Et ça, c'est une chose que, sur laquelle nous mettons l'accent, pour comprendre la complexité de le rapport émotionnel de l'imitation, il faut le voir de tous les deux points de vue. Et pour les Américains, pour les supporters de Trump, on a l'impression, l'idée centrale, qu'on va être remplacé dans la technologie par les Chinois, dans la population par les Sud-Américains. Et la peur d'être imité, d'être remplacé, déplacé, que quelqu'un se mette dans nos places, qu'on, nous allons disparaître, oui. Les États-Unis, que c'est vraiment folie d'avoir cette idée, mais c'est très faux.
C'est
et derrière la pensée de Trump, c'est l'inversion de l'idée de l'imitation comme humiliation.
Donc finalement, cette réflexion sur l'Europe de l'Est, elle nous ramène Stephen Holmes aux États-Unis. Je vous propose d'ailleurs d'entendre tout de suite un air que vous avez choisi.
Merci.
Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours avec Stephen Holmes, qui est avec nous depuis New York et qui a signé ce livre qui va être publié bientôt en France, Le moment illibéral, pourquoi l'Occident a perdu la paix, sous-entendu, de la guerre froide. Stephen Holmes qui a choisi de nous faire entendre September Fields de Frazee Ford.
C'est une chanson qui s'appelait beaucoup à moi et ma femme.
Alors, très bien. Mais c'est ce qui est intéressant dans votre livre, Stephen Holmes, c'est que vous proposez un modèle général d'explication. Et c'est très rare, c'est suffisamment rare pour être souligné, parce que ce système d'explication par la théorie de l'imitation, imitation qui a été demandée, imposée, consentie aussi par les peuples d'Europe centrale et orientale, a des effets en Amérique, et vous insistez beaucoup sur la rupture que représente le mandat de Trump, l'administration Trump, une rupture très profonde, parce que précisément, vous parlez d'ailleurs de mouvements de plaques tectoniques, parce que tout d'un coup, l'Amérique accepte d'avoir perdu son innocence.
Oui, oui, c'est-à-dire l'idée, la grande révolution de Trump, c'est de dire que l'Amérique n'est pas exceptionnel moralement. C'est-à-dire, l'Amérique n'est pas... dans toute l'histoire, les Américains ont donné l'impression, ont dit explicitement que l'Amérique est moralement supérieure aux autres pays. Mm. Mais maintenant, Trump a dit non, on est tout à fait normal, on a péché comme les autres, on tue les gens sans raison. Vraiment, c'est incroyable. On a les spectateurs qui écoutent Trump, chantent USA, USA, mais en même temps, Trump dit que nous ne sommes pas supérieurs aux autres moralement. Peut-être qu'on est plus fort. C'est incroyable.
Parce qu'il a senti, et c'est là où il y a véritablement un système qui se dérègle, c'est parce que finalement l'imitation n'est pas une bonne nouvelle pour les États-Unis.
Non, c'est pas du tout.
Ouais. C'est pas une bonne nouvelle. Et parce que c'est pas bon d'être transparent aux autres, parce que du fait on comprend de moins en moins ce qui se passe chez les autres.
Oui, oui, c'est une chose importante qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'idée centrale du système international libéral, c'était de canaliser le nationalisme allemand et japonais dans l'industrialisation et pas dans la militarisation. On a essayé d'empêcher la remilitarisation du nationalisme japonais et allemand. Et aussi, très important, l'idée centrale est n'est pas à mettre Japon et Allemagne dans le club nucléaire. C'est la chose la plus importante. Mm-hmm. Et alors, on a accepté le fait que les Japonais et les Allemands ont vendu les voitures en Amérique. C'est mieux que la guerre nucléaire, la Troisième Guerre mondiale. Mais Trump a tout dit, non, c'est pas vrai. La chose plus terrible du monde, c'est que les Allemands et les Japonais qui ont perdu la guerre ont réussi à vendre beaucoup de voitures en Amérique. Alors ça, c'était une idée tellement fou que personne ne l'a accepté dans les années 90 quand Trump a commencé à parler comme ça. Mais maintenant, elle est acceptée, pour la plus grande raison, c'est la montée de la Chine comme adversaire, compétiteur plus important que le Japon.
Et compétiteur par imitation.
Par imitation. Et ça, c'est important.
Avant de parler de la Chine, mais ce qu'on montre bien, c'est qu'il y a aussi une difficulté pour le modèle limité. Mais avant de passer à la Chine, qui est bien sûr l'élément central pour comprendre notre monde contemporain, vous avez aussi une théorie, votre théorie de limitation s'applique aussi pour la Russie. Mais les Russes vont, et notamment Poutine, va réagir différemment. Vous dites, l'imitation par les Russes prend... la valeur de revanche, de vengeance contre le modèle américain.
Oui, oui. C'est-à-dire, au début, je parle de 1991 jusqu'à 2011, plus ou moins, le Kremlin a simulé la démocratie occidentale comme moyen, surtout, de diminuer la pression occidentale en faveur de réformes sérieuses. Tout le monde en Russie a compris totalement que les élections étaient truquées et que les électeurs n'avaient pas aucune influence sur ce qui gouverne le pays. Mais était un système assez stable parce qu'on avait le fraude électoral, les élections truquées, sans protestation. Après 2011-2012, il y avait des protestations assez graves et le Kremlin a changé de stratégie. À adapter une stratégie d'imitation agressive, ce que nous, avec Ivan, nous appelons la parodie violente de la politique étrangère américaine. Un exemple classique de parodie violente est la façon dont l'État islamique a habillé ses victimes avec des combinaisons orange, imitant la façon dont les États-Unis ont habillé les prisonniers à Guantanamo. Dans le bout, quel était le bout? Le bout était de tenir un miroir dans lequel les Américains pourraient se voir, dans le bout d'exposer l'hypocrisie occidentale, dans le bout d'humilier, démoraliser les Américains. Poutine a fait explicitement la même chose lors de l'annexation de la Crimée, citant comme précédent l'action américaine au Kosovo et Libye et beaucoup d'autres exemples. C'est-à-dire l'imitation comme agression. pour tenir le miroir, pour faire montrer l'hypocrisie des Américains.
Mais ce qui est terrible, c'est à vous lire Stephen Holmes avec Ivan Krastev, vous dites, ce qui est terrible, c'est qu'il y a une dégradation générale du discours dans les relations internationales, parce que l'objectif des Russes, c'est de dire, dans le fond, nous on se comporte mal, mais vous aussi vous vous comportez mal. C'est une sorte de réalisme brutal qui est imposé aussi au discours des relations internationales.
Ouais. Et ce n'est pas vraiment réalisme, parce que ça mène au nihilisme, je pense, réalisme.
Bien sûr.
C'est dans un abysse sans valeur et pas vraiment aussi sans stratégie. Parce que quel est le but de toutes ces choses-là? D'imitation agressive, ça mène à quoi? À quoi?
Alors oui, ça mène à quoi? Et c'est terrible parce que ce que vous dites, l'interprétation que vous donnez de la politique russe en Syrie, mais on pourrait dire, d'ailleurs, on pourrait ajouter à cet exemple l'exemple des procès politiques qu'a fait Poutine, où à la différence des précédents procès politiques faits en Russie, où on essayait d'imiter, de sauver les formes du procès, là on fait un pied de nez à l'Occident, en disant c'est totalement abusif ce procès, mais je m'en fiche, je ne tiens pas compte de votre avis. Il y a quelque chose de provoquant, ce qu'on a vu dans l'affaire Khodorkovsky par exemple. Ouais. Et alors, vous dites en Syrie, vous allez jusqu'à dire, moi j'aimerais Stephen Holmes que vous me confirmiez, de dire mais on a fait des bombardements d'hôpitaux, d'écoles, de réfugiés, sans aucune préoccupation morale, sans aucun scrupule moral, comme si c'était une volonté de dire quelque chose de négatif à l'Occident.
Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas de moralité internationale du tout. Mm. Et c'est pas seulement sans scrupule moral, mais c'est aussi sans stratégie. Alors on pense, pourquoi il fait ça? Il fait ça pour montrer aux Américains que le monde, que dans tout le monde, il n'y a pas de morale. Et c'est vraiment comme un raisonnement politique très incroyable, vraiment nihiliste.
Et alors, c'est là où on peut faire le lien, Stephen Holmes, avec ce que vous nous disiez de Donald Trump, c'est que quand l'Amérique se présente comme un modèle moral, nous, pays qui ne sommes pas américains, on a un levier sur les États-Unis, c'est de leur dire, mais conformez-vous à votre idéal moral.
Ouais.
C'était l'argument d'ailleurs de Martin Luther King, c'était de dire, bon, je me bats au nom des valeurs qui nous réunissent tous en Amérique. C'est à ça que ça sert, des idéaux moraux.
Ouais.
Et là, vous constatez, vous êtes inquiet, et j'aimerais que vous développiez d'ailleurs, Stephen Holmes, votre inquiétude, c'est que de part et d'autre, les idéaux moraux sont abattus. Il y a une sorte de désinhibition morale de part et d'autre qui est très inquiétante.
Oui, c'est décomplexé. Oui, non, ça c'était important. Il fait, ça, c'est vrai que les Américains n'ont pas, la politique américaine internationale n'a pas suivi toutes les normes libérales et humanitaires. Mais en fait, la survivance de ces idéaux ont vraiment donné le cadre dans lequel on peut juger. Le monde est donné une espèce de moralité de l'opinion publique américaine et internationale. Et on est en train de perdre ça.
Oui, parce que
c'est le nouvel monde. C'est un réalisme cynique qui est une espèce de, je ne sais pas comment on peut le décrire, mais il y a une espèce d'intoxication cynique de dire il n'y a pas de limite, il n'y a pas. Et on voit dans la politique de Trump envers les immigrés, on veut voir les enfants souffrir dans les prisons. On a changé, on a déplacé les prisons dans lequel on a retenu les suspects de terrorisme en Guantanamo, ou la frontière avec Mexique, dans lequel on tient les enfants dans les cages,
dans les prisons,
dans les prisons, pour montrer qu'on n'a pas de morale.
Oui.
Vraiment, pour montrer ça.
Ce qui fait la grandeur de l'Amérique et ce qui était son message universel avant Trump et qui le demeure, espérons-le, c'est précisément que c'est un pays qui a été fondé dans le droit et que l'Amérique a commis des exactions comme tous les pays, mais il y avait, comme vous le dites, la possibilité d'être jugé. Et notamment, la Cour suprême, elle a essayé de l'arrêt Korematsu et beaucoup d'autres, elle tente d'imposer la victoire du droit définitive sur la politique. Et là, on voit bien qu'aux États-Unis aussi, il y a un effet malfaisant de cette désinhibition que russe, entre autres, dans le fait où il y a une contestation même du pouvoir de jugement et des juges.
Oui, c'est la fin de la culture de la justification, en certain sens. Oui, ouais, je pense que c'est ça la chose plus radicale.
Et alors, y a quelqu'un dont on n'a pas beaucoup parlé, un acteur dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est très important, c'est bien sûr la Chine. Comment est-ce que la Chine se situe dans ce modèle explicatif d'imitation qui éclairerait nos relations internationales, Stephen Holmes?
Bon, ça, c'est très intéressant que les Chinois empruntent la technologie occidentale en imitant le mode et l'architecture occidentale. Mais les dirigeants chinois, de Deng Xiaoping à Xi Jinping, ont toujours combiné cette empreinte de technologie, par exemple, organisation industrielle, avec une politique de résistance au champ des sirènes de l'Occident. Mm-hmm. Et ça, c'est les choses. Le massacre de Tiananmen visait un mouvement populaire qui espérait explicitement que la Chine se refasse sur le modèle de la démocratie libérale occidentale. Et on a construit sur la place de Tiananmen une espèce de statue qui ressemblait beaucoup au Statue of Liberty.
La statue de la liberté.
Et était l'américanisation rejetée. Alors, la politique chinoise, il faut emprunter la technologie, mais absolument refuser de la génuflexion devant l'Occident, en tout cas.
Oui.
À l'époque de Mao, la Chine avait pour objectif d'exporter la révolution paysanne en Afrique, mais aujourd'hui, la Chine construit les routes, les ponts, des portes en Afrique, mais n'essaie pas d'exporter une vision idéologique ou pour pousser le pays africain à refaire le régime pour se conformer à un modèle chinois.
Oui.
Et c'est pourquoi le conflit, je pense, est dans le livre, on fait cet argument, que le conflit à venir, qui va être grave entre les États-Unis et la Chine, ne sera pas une nouvelle guerre froide, qui était un conflit idéologique dans lequel les deux parties cherchaient de convertir les autres pays à leur propre vision de l'avenir. Et ça, pour la Chine, ce n'est pas important. Et ça, une autre idée de l'imitation, la Chine, vraiment, c'est la fin de la vision de convertir le monde au libéralisme.
Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un terme qui, moi, me semble très, très important dans le nouveau modèle chinois, c'est le modèle qu'elle propose au reste du monde et qui marche, on entend des propos d'ailleurs ici en France de certains disant oui, bah, la Chine, c'est sûr qu'il n'y a pas de liberté, mais ça marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'efficacité et la consommation sont donc le bien-être individuel et l'efficacité du service sont les deux grands facteurs de légitimité, y compris politique, et que ce modèle, il faut oublier le droit, il faut oublier les contre-pouvoirs, il faut oublier le jugement qui est peut toujours revenir sur un acte politique au bénéfice d'une efficacité et d'une consommation généralisée. Et dans ce sens-là, c'est un véritable modèle qui est post-politique de la part des Chinois, Stephen Holmes.
C'est peut-être post-politique, mais naturellement, ça dépend de la croissance, parce qu'il y a un niveau de corruption en Chine qui est un facteur d'illégitimité. Et ça va commencer à manquer la croissance très rapide. On va se mettre en grande crise, je pense. Alors, pour le modèle de l'efficacité, pouvoir centralisé, sans échec, sans correction, sans capacité
de la responsabilité, du devoir de rendre des comptes
devant le peuple, on peut marcher jusqu'à un certain point.
C'est ça.
Mais certainement, on va voir ce que va passer en Chine maintenant, parce que c'est aussi assez difficile. Je pense que la route devant eux, c'est pas très facile. Mais en tout cas, et c'est très important de dire qu'on peut penser à l'intelligence, parce que les Chinois ont fait la comparaison au Trump. C'est pas photo que Trump est vraiment pas rationnel du tout. Mais enfin, un système qui n'est pas l'échec, parce qu'en Amérique, Trump essaie de créer un système sans échec.
Mais
si on fait ça, on va tomber dans l'irrationalité, sûrement, et la corruption en Amérique.
Oui, mais alors, est-ce que vous ne croyez pas, Stephen Holmes, que les Chinois sont servis par quelque chose et qui marque une différence profonde avec l'Amérique, L'Amérique, et c'est un pays d'immigration qui a remplacé, vous le disiez, les Indiens, mais qui s'offre comme une destination finale à tous les opprimés de la Terre et qui est une culture effectivement très accueillante, qui est une culture très rayonnante et tous les enfants du monde entier ont envie d'aller étudier dans votre université à NYU, Stephen Holmes, et parce qu'on a des bons professeurs, c'est des lieux ouverts, etc. Or, la Chine... Elle a quelque chose, par sa culture, par son écriture, quelque chose qu'on connaît mal d'abord, et qui est inimitable. Personne ne va se mettre à écrire, et ne peut pas d'ailleurs écrire en caractère chinois. Donc elle s'est jouée intelligemment, de, pour continuer votre modèle général qui est basé sur l'imitation, la Chine tire profit de ce qu'elle n'est pas, imitable par les autres.
Antoine Garapon, vous êtes génial. C'était une observation très... On n'a pas vraiment dit ça dans le même terme dans le livre, mais vous avez raison que la Chine, la culture de l'inimitabilité, c'est central à la culture, à la civilisation chinoise, et je pense que ça, c'est la grande différence entre l'Union soviétique et la Chine d'aujourd'hui. Parce que dans l'Union soviétique, l'idée était de créer des imitateurs, des régimes de répliquants. On a ces rêves qui ont répliqué plus ou moins la structure, comme la Chine d'ailleurs a fait. Mais tandis que les Américains, la culture américaine, c'est une culture qui était fondée sur l'idée « nous sommes imitables ».
Exactement.
Ça, c'est vraiment la grande différence. Parce que la guerre froide était une guerre entre deux pouvoirs. Toutes les deux, on essaie de convertir les autres.
Et c'est ça.
Et toutes les deux, on essaie de trouver les imitateurs. Tandis que maintenant, la guerre contre l'Amérique et la Chine, ça sera très différent. Et je pense que notre futur sera formé par cette différence.
Ah oui. Alors, vous terminez en distinguant trois modèles, finalement, et qui sont matière à penser. Vous dites, il y a eu le modèle des pays de l'Est qui étaient des convertis. Celui de la Russie qui était plutôt une imitation mais d'imposteur, et vous dites les Chinois ont l'intelligence de distinguer les moyens et la fin, on prend la technique mais on ne prend pas la finalité, on s'inspire de ce qui est efficace mais on ne prend pas l'idéal et les rêves démocratiques, parce que finalement toute démocratie est toujours une utopie, Stephen Holmes.
Et aussi les Chinois ont eu beaucoup de l'histoire des problèmes avec l'imitation, compris l'imitation de l'Union soviétique, qui était aussi une humiliation pour les Chinois.
Bien sûr.
Alors, ça c'est... Mais je pense que vous avez mis accent sur une différence très importante, et peut-être dans la deuxième édition de notre livre, on va l'ajouter.
Alors, Stephen Holmes, dernière observation. Votre livre est à la fois passionnant, très très éclairant et un peu inquiétant. Est-ce que vous pourriez nous donner un mot sur l'avenir, comme vous le voyez, peut-être un mot d'espoir?
Le grand espoir que nous avons ici en Amérique, parce que je suis aussi en New York, c'est qu'on va trouver une alternative à notre président fou. Ça dépend. Mais si Trump va être élu une deuxième fois, c'est vraiment un commentaire sur notre pays, que c'est pas seulement un accident. Mais je pense que vraiment, on est très fatigué de cet homme-là, et je peux pas dire que le monde va retourner avant, sera différent. Trump a changé beaucoup de choses, le nationalisme est ici. L'antisémitisme en Amérique, vraiment, c'est incroyable de voir ça ressortir. Je n'ai pas pensé que c'était possible, mais on le voit. Alors, on est très inquiet de ça, mais je pense que la résistance, il y a. Il y a une grande résistance, il y a une grande volonté de retrouver la valeur du libéralisme sans l'ambition de monopoliser le monde ou diffuser en tout le monde.
Et ben voilà un beau programme. En tout cas, merci beaucoup Stephen Holmes pour cet entretien passionnant.
Merci.
Je rappelle le titre du livre écrit par Yvonne Krastev et Stephen Holmes, Le moment illibéral, Trump, Poutine, Xi Jinping, pourquoi l'Occident a perdu la paix. Matière à penser, Stephen Holmes, Claude Nior, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon, et merci aussi au service technique de la NPR, de la National Public Radio à New York, qui assurait la liaison en duplex. Et pour la semaine prochaine, je céderai mon siège à Dominique Rousset. À bientôt.